Merci d'écouter RFI, 3h à Paris, 2h temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Ils ne sont qu'à quelques heures de retrouver leurs proches déjà libres. Un franco-israélien et un américano-israélien vont être remis à l'État hébreu par le Hamas ce samedi. À leur côté, Yarden Bibas, un Israélien dont les enfants et l'épouse ont été déclarés morts à Gaza par le Hamas. Tous trois seront échangés contre 183 prisonniers palestiniens. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ONU dit craindre une avancée rapide du M23 soutenu par les forces rwandaises en direction de Bukavu. La France prépare une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre la pression sur Kigali. Donald Trump frappe trois fois. Mexique, Canada et Chine seront concernés par des droits de douane. Le président américain l'a annoncé ce vendredi. Ce n'est pas le cas de l'Inde pour l'instant, menacée par Trump à cause d'un projet de monnaie unique des BRICS. Et puis une victoire pour les défenseurs des océans. Le Portugal interdit l'exploitation minière de ses fonds marins jusqu'en 2050. Leurs histoires avaient beaucoup marqué les Israéliens. Trois otages vont être remis à l'État hébreu par le Hamas ce samedi en échange de la libération de 183 détenus palestiniens. Parmi ces personnes enlevées le 7 octobre 2023, il y a Yarden Bibas. Il rentrera sans ses enfants et son épouse, enlevés eux aussi mais déclarés morts à Gaza par le Hamas. Ceux qui l'accompagneront ce samedi, ce seront donc l'américano-israélien Kes Ziegel et le franco-israélien Ofer Calderon. Leurs parcours sont eux aussi déjà bien connus de la population israélienne. Muriel Paradon.
Ces libérations seront suivies sans nul doute minute par minute en Israël. Deux histoires de retrouvailles d'abord. Celle du franco-israélien Ofer Calderon, 54 ans, enlevé le 7 octobre 2023 avec ses deux enfants âgés de 12 et 16 ans. Eux ont été libérés lors de la première trêve entre Israël et le Hamas il y a plus d'un an. La famille va donc être à nouveau réunie. Idem pour Kay Siegel, 65 ans. Sa femme prise en otage avec lui avait été aussi libérée lors de la première trêve. Elle l'attend avec impatience. Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, la montrant explosée de joie à l'annonce de sa libération. Et puis il y a une histoire plus douloureuse, celle de Yarden Bibas, 35 ans. Il sortira seul de Gaza, sans sa femme et ses deux enfants, âgés de 4 ans et 9 mois à l'époque de leur enlèvement. Le Hamas les a donnés pour morts au début de la guerre, tués lors d'un bombardement israélien, mais Israël n'a jamais confirmé. Quoi qu'il en soit, l'image de ces jeunes enfants aux cheveux roux est devenue un des symboles forts du drame des otages en Israël. Muriel Paradon, Nicolas Benita, Tel Aviv, RFI.
Et ce vendredi, toujours le représentant de l'Organisation mondiale de la santé dans les territoires palestiniens a estimé que 12 à 14 000 personnes auraient besoin d'être évacuées de Gaza pour raisons médicales. Une cinquantaine de blessés traverseront le poste frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte ce samedi. Le point de passage va en effet être rouvert. Dans l'est de la République démocratique du Congo, Bukavu s'approche sur la route du M23. Le groupe armé soutenu par les forces rwandaises se trouverait à environ 60 km de la capitale provinciale du Sud Kivu, selon Jean-Pierre Lacroix, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le représentant qui insiste sur la nécessité de faire tous les efforts diplomatiques pour parvenir à une cessation des hostilités. Un message entendu par la France qui planche depuis ce vendredi sur un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ambassadeur français Nicolas Rivière compte y réclamer l'arrêt des actions en cours et faire pression sur le Rwanda. C'était l'une des promesses phares de Donald Trump pour protéger l'économie américaine. Le Mexique, le Canada et la Chine vont tomber sous le coup de nouveaux droits de douane. C'est donc le président américain qui l'a annoncé ce vendredi. En revanche, pour le moment, l'Inde est épargnée. Pourtant, le locataire de la Maison-Blanche avait promis de contrer prochainement le projet d'une nouvelle monnaie commune entre les BRICS, Léa Ojala.
Les BRICS, dont fait partie l'Inde, ont pour ambition de contester la domination occidentale. Le bloc de puissance a mené des réflexions pour se passer du dollar, monnaie de référence dans les échanges mondiaux. Ces réflexions ont d'ailleurs été saluées récemment par Narendra Modi, le Premier ministre indien qui se félicite des efforts engagés pour accroître l'intégration financière entre les pays des BRICS. Pour autant, New Delhi réfléchit à des solutions pour éviter de fâcher les États-Unis, son premier partenaire commercial. Car si Donald Trump mettait à exécution sa menace, l'exportation de marchandises indiennes en subirait forcément les conséquences. Le gouvernement indien pourrait par exemple favoriser l'achat de produits américains comme le pétrole, l'acier et les avions. Lors d'un échange téléphonique le 27 janvier dernier, Donald Trump a demandé à Narendra Modi d'acheter davantage d'équipements de défense américains et de s'orienter vers un partenariat commercial équitable. Le mois prochain, les deux dirigeants doivent se rencontrer à la Maison-Blanche. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
La politique anti-immigration de Donald Trump, sévèrement critiquée par son homologue colombien. Criminaliser un groupe de population est une thèse fasciste, a lancé Gustavo Petro lors d'un entretien télévisé ce vendredi. Une prise de parole qui intervient quelques jours après une poussée de fièvre entre les deux pays au sujet des expulsions de migrants illégaux. La lutte contre l'immigration, un sujet d'entente entre droite et extrême droite allemande qui inquiète le reste du spectre politique. CDU et AfD se sont entendus ce vendredi sur un nouveau texte. Cette fois, le projet a été rejeté de peu par le Parlement. Mercredi déjà, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'AfD d'extrême droite avait noué une alliance avec la CDU-CSU, le parti chrétien-démocrate, pour adopter une motion, cette fois non contraignante. Son chef Friedrich Merz est le favori pour succéder à Olaf Scholz en tant que chancelier allemand après les législatives qui se dérouleront dans 3 semaines. Et puis en Belgique, le chef des conservateurs flamands, lui, est parvenu à trouver un accord de gouvernement. C'est la première fois, 7 mois et demi après les législatives. Bart De Vedder devrait donc être le prochain premier ministre belge. Il a en tout cas réussi à nouer un accord regroupant 5 formations politiques. C'est inédit en Suisse pour un mastodonte du négoce en matières premières. Le groupe Trafigura a été condamné ce vendredi pour corruption. Michael Wainwright, ex-numéro 2 de la firme, écope lui d'une peine de prison ferme. Jusqu'à présent, la société avait échappé aux sanctions en plaidant coupable pour corruption au Brésil ou aux États-Unis. Mais le tribunal suisse de Bellinzone a délivré cette fois un autre verdict, Alexis Bédu.
Tous coupables, les procureurs de la plus haute instance judiciaire suisse ont tranché. D'après eux, 5 millions de dollars de pots de vin ont été versés à Paolo Gouveia, un officiel angolais, en échange de contrats pétroliers. Trafigura est condamné à payer une amende de plus de 3 millions de dollars et à 146 millions de dollars d'indemnisation. Cela correspond aux profits générés par les 9 contrats d'affrètement et de soutage litigieux obtenus entre 2009 et 2011. Mais surtout, le Britannique Mike Wainwright, ancien directeur des opérations de Trafigura, a été condamné à 1 an de prison ferme, 36 mois dont 14 fermes pour Paolo Gouveia. Il s'agit d'un signal fort selon le procureur général suisse, une première historique pour l'ONG Public Eye. C'est la première fois qu'un dirigeant d'une maison de négoce est condamné à de la prison ferme. Jusqu'à présent, en Suisse, seuls les intermédiaires ayant œuvré dans ces affaires de corruption impliquant des grandes sociétés de négoce étaient condamnés. L'avocat de Mike Wainwright annonce d'ores et déjà qu'il va faire appel.
Alexis Bédu. Pas d'extraction d'hydrocarbures au large du Portugal avant 25 ans. Un moratoire a été voté ce vendredi par le Parlement portugais pour interdire l'exploitation minière des fonds marins. Une première en Europe qui a pourtant séduit une large partie de la classe politique portugaise. Stéphanie Schuller.
Ce sont plusieurs textes en faveur de la protection des fonds marins, déposés aussi bien par la coalition de centre-droit au pouvoir que par l'opposition socialiste, qui ont été adoptés ce vendredi au Parlement portugais. Le Portugal est ainsi en passe de devenir le premier pays européen à inscrire dans la loi une interdiction de l'exploitation minière des fonds marins dans ses eaux territoriales. Avec l'archipel des Açores, situé en plein milieu de l'Atlantique Nord, le pays pourrait pourtant disposer d'importantes ressources minières dans les profondeurs de sa zone économique exclusive. D'ailleurs, dans le monde entier, les fonds marins, situés entre 4 et 6 000 mètres de profondeur, suscitent des convoitises, car on y retrouve des métaux rares, nécessaires par exemple pour la fabrication des batteries de véhicules électriques. Mais les scientifiques alertent depuis des années sur les impacts potentiels de l'exploitation minière au fond des océans, parce qu'il n'existe pour l'instant pas suffisamment de données pour évaluer les conséquences sur ces écosystèmes fragiles, mais aussi sur le changement climatique.
Stéphanie Schuller. Et puis, ce n'est pas un médaillé d'or olympique, mais c'était quand même l'une des stars des Jeux de Paris. La vasque olympique sera réinstallée chaque été à Paris, comme c'était le cas l'an dernier, et ce, jusqu'au JO de Los Angeles en 2028. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé ce vendredi. Perché à 30 mètres de haut avec son ballon d'hélium, l'installation avait attiré des foules de touristes au jardin des Tuileries. C'est la fin de ce journal sur RFI. 3h10 à Paris, 2h10 dans Universel.